Histoire de Gil Blas de Santillane, livre 9e, chapitre 1er. Scipion veut marier Gil Blas et lui propose la fille d'un riche et fameux orfèvre, des démarches qui se firent en conséquence. Un soir, après avoir renvoyé la compagnie qui était venue souper chez moi, me voyant seul avec Scipion, je lui demandai ce qu'il avait fait ce jour-là. « Un coup de maître, » me répondit-il. « Je vous ménage un riche établissement. Je veux vous marier à la fille unique d'un orfèvre de ma connaissance. »«
La fille d'un orfèvre ? »
m'écriai-je d'un air dédaigneux. « As-tu perdu l'esprit ? Peux-tu me proposer une bourgeoise ? Quand on a un certain mérite et qu'on est à la cour sur un certain pied, il me semble qu'on doit avoir des vues plus élevées. « Eh, monsieur, » me repartit Scipion, « ne le prenez point sur ce ton-là. Songez que c'est le mal qui anoblit, et ne soyez pas plus délicat que 1000 seigneurs que je pourrais vous citer. Savez-vous bien que l'héritière dont il s'agit est un parti de 100 000 ducats pour le moins ? N'est-ce pas là un beau morceau d'orfèvrerie ?» Lorsque j'entendis parler d'une grosse somme, je devins plus traitable. « Je me rends, » dis-je à mon secrétaire. « La dot me détermine. Quand veux-tu me la faire toucher ?»«
Doucement, monsieur, » me répondit-il. « Un peu de patience. Il faut auparavant que je communique la chose au père et que je la lui fasse agréer. »«
Bon, » repris-je en éclatant de rire, « tu en es encore là. Voilà un mariage bien avancé. »
« Beaucoup plus que vous le pensez, » répliqua-t-il.
« Je ne veux qu'une heure de conversation avec l'orfèvre et je vous réponds de son consentement. Mais avant que nous allions plus loin, composons, s'il vous plaît. Supposez que je vous fasse donner 100 000 ducats. Combien m'en reviendra-t-il »«
20 000, »
lui repartis-je.
« Le ciel en soit loué, » dit-il. « Je bornais ma reconnaissance à 10 000. »
Vous êtes une fois plus généreux que moi. Allons, j'entrerai dès demain dans cette négociation et vous pouvez compter qu'elle réussira, ou je ne suis qu'une bête. Effectivement, 2 jours après, il me dit « J'ai parlé au seigneur Gabriel de Salero. » Ainsi se nommait mon orfèvre. « Je lui ai tant vanté votre crédit et votre mérite qu'il a prêté l'oreille à la proposition que je lui ai faite de vous accepter pour gendre. » Vous aurez sa fille avec 100 000 ducats, pourvu que vous lui fassiez voir clairement que vous possédez les bonnes grâces du ministre.
S'il ne tient qu'à cela, dis-je alors à Scipion, je serai bientôt mariée.
Mais à propos de la fille, l'as-tu vue ?
Est-elle belle ?
Pas si belle que la dot. Entre nous, cette riche héritière n'est pas une fort jolie personne. Par bonheur, vous ne vous en souciez guère.
« Ma foi, non, » lui répliquai-je. « Mon enfant, nous autres gens de cour, nous n'épousons que pour épouser seulement. Nous ne cherchons la beauté que dans les femmes de nos amis. Et si par hasard elle se trouve dans les nôtres, nous y faisons si peu d'attention que c'est fort bien fait quand elles nous en punissent. »
« Ce n'est pas tout, » reprit Scipion. « Le seigneur Gabriel vous donne à souper ce soir. » Nous sommes convenus que vous ne parlerez pas du mariage projeté. Il doit inviter plusieurs marchands de ses amis à ce repas, où vous vous trouverez comme un simple convive, et demain il viendra souper chez vous. De la belle manière. Vous voyez par là que c'est un homme qui veut vous étudier avant que de passer outre. Il sera bon que vous vous observiez un peu devant lui.
« Oh, parbleu !» interrompis-je d'un air de confiance. « Qu'il m'examine tant qu'il lui plaira, je ne puis que gagner à cet examen. »
Cela s'exécuta de point en point. Je me fis conduire chez l'orfèvre, qui me reçut aussi familièrement que si nous nous fussions déjà vus, plusieurs fois. C'était un bon bourgeois, qui était, comme nous disons, poli hasta porfiar. Il me présenta la signora Eugenia, sa femme, et la jeune Gabriella, sa fille. Je leur fis force compliments, sans contrevenir au traité. Je leur dis des riens en fort beaux termes, des phrases de courtisans. Gabriella, quoique m'en eût dit mon secrétaire, ne me parut pas désagréable. soit à cause qu'elle était extrêmement parée, soit que je ne la regardasse qu'au travers de la dot. La bonne maison que celle du seigneur Gabriel. Il y a, je crois, moins d'argent dans les mines du Pérou qu'il n'y en avait dans cette maison-là. Ce métal s'y offrait à la vue de toutes parts, sous mille formes différentes. Chaque chambre, et particulièrement celle où nous nous étions mis à table, était un trésor. Quel spectacle pour les yeux d'un gendre! Le beau-père, pour faire plus honneur à son repas, avait assemblé chez lui 5 ou 6 marchands, tous personnages graves et ennuyeux. Ils ne parlèrent que de commerce, et l'on peut dire que leur conversation fut plutôt une conférence de négociants qu'un entretien d'amis qui soupent ensemble. Je régalai l'orfèvre à mon tour le lendemain au soir. Ne pouvant l'éblouir par mon argenterie, j'eus recours à une autre illusion. J'invitai à souper ceux de mes amis qui faisaient la plus belle figure à la cour et que je connaissais pour des ambitieux qui ne mettaient point de bornes à leurs désirs. Ces gens-ci ne s'entretinrent que des grandeurs, que des postes brillants et lucratifs auxquels ils aspiraient, ce qui fit son effet. Le bourgeois Gabriel, étourdi de leurs grandes idées, ne se sentait, malgré tout son bien, qu'un petit mortel en comparaison de ces messieurs. Pour moi, faisant l'homme modéré, je dis que je me contenterais d'une fortune médiocre, comme de 20 000 ducats de rente. Sur quoi ces affamés d'honneur et de richesse s'écrièrent que j'aurais tort, et qu'étant aimé autant que je l'étais du premier ministre, je ne devais pas m'en tenir à si peu de choses. Le beau-père ne perdit pas une de ses paroles, et je crus remarquer, quand il se retira, qu'il était fort satisfait. Scipion ne manqua pas de l'aller voir le jour suivant dans la matinée pour lui demander s'il était content de moi. « J'en suis charmé !» lui répondit le bourgeois. « Ce garçon-là m'a gagné le cœur. »« Mais, seigneur Scipion, ajouta-t-il, je vous conjure, par notre ancienne connaissance, de me parler sincèrement. Nous avons tous notre faible, comme vous savez. Apprenez-moi celui du seigneur de Santillane. Est-il joueur ? Est-il galant ? Quelle est son inclination vicieuse ? Ne me le cachez pas, je vous en prie. » Vous m'offensez, seigneur Gabriel, en me faisant cette question, repartit l'entremetteur. Je suis plus dans vos intérêts que dans ceux de mon maître. S'il avait quelque mauvaise habitude qui fût capable de rendre votre fille malheureuse, est-ce que je vous l'aurais proposé pour gendre ? Non, parbleu, je suis trop votre serviteur. Mais entre nous, je ne lui trouve point d'autre défaut que celui de n'en avoir aucun. Il est trop sage pour un jeune homme. « Tant mieux !» reprit l'orfèvre. « Cela me fait plaisir. Allez, mon ami, vous pouvez l'assurer qu'il aura ma fille et que je la lui donnerai quand il ne serait pas chéri du ministre. » Aussitôt que mon secrétaire m'eut rapporté cet entretien, je courus chez Salero pour le remercier de la disposition favorable où il était pour moi. Il avait déjà déclaré ses volontés à sa femme et à sa fille, qui me firent connaître, par la manière dont elles me reçurent, qu'elles y étaient soumises sans répugnance. Je menai le beau-père au duc de Lerme, que j'avais prévenu la veille, et je le lui présentai. Son Excellence lui fit un accueil des plus gracieux, et lui témoigna de la joie de ce qu'il avait choisi pour gendre un homme qu'elle affectionnait beaucoup et qu'elle prétendait avancer. Elle s'étendit ensuite sur mes bonnes qualités et dit tant de bien de moi que le bon Gabriel crut avoir rencontré dans ma seigneurie le meilleur parti d'Espagne pour sa fille. Il en était si aise qu'il en avait la larme à l'œil. Il me serra fortement entre ses bras lorsque nous nous séparâmes, en me disant « Mon fils, j'ai tant d'impatience de vous voir l'époux de Gabriela que vous le serez dans 8 jours, tout au plus tard. » Chapitre 2. Par quel hasard Gil Blas se ressouvint de Don Alphonse de Leyva et du service qu'il lui rendit par vanité. Laissons là mon mariage pour un moment. L'ordre de mon histoire le demande et veut que je raconte le service que je rendis à Don Alphonse, mon ancien maître. J'avais entièrement oublié ce cavalier et voici à quelle occasion j'en rappelai le souvenir. le gouvernement de la ville de Valence vint à Vaquer dans ce temps-là. En apprenant cette nouvelle, je pensais à Don Alphonse de Leyva. Je fis réflexion que cet emploi lui conviendrait à merveille, et moins peut-être par amitié que par ostentation, je résolus de le demander pour lui. Je me représentais que si je l'obtenais, cela me ferait un honneur infini. Je m'adressai donc au duc de Lerme, je lui dis que j'avais été intendant de Don César de Leyva et de son fils, et qu'ayant tous les sujets du monde de me louer d'eux, je prenais la liberté de le supplier d'accorder à l'un ou à l'autre le gouvernement de Valence. Le ministre me répondit « Très volontiers, Gil Blas, j'aime à te voir reconnaissant et généreux. D'ailleurs, tu me parles pour une famille que j'estime. Les Leyvas ont des bons serviteurs du roi. Ils méritent bien cette place. Tu peux en disposer à ton gré. Je te la donne pour présent de noces. » Ravi d'avoir réussi dans mon dessein, j'allai sans perdre de temps chez Calderon faire dresser des lettres patentes pour Don Alphonse. Il y avait un grand nombre de personnes qui attendaient dans un silence respectueux que Don Rodrigue vint leur donner audience. Je traversai la foule et me présentai à la porte du cabinet qu'on m'ouvrit. J'y trouvai je ne sais combien de chevaliers, de commandeurs et d'autres gens de conséquence que Calderon écoutait tour à tour. C'était une chose remarquable que la manière différente dont il les recevait. Il se contentait de faire à ceux-ci une légère inclination de tête, il honorait cela d'une révérence et les conduisait jusqu'à la porte de son cabinet. Il mettait, pour ainsi dire, des nuances de considération dans les civilités qu'il faisait. D'un autre côté, j'apercevais des cavaliers qui, choqués du peu d'attention qu'il avait pour eux, maudissaient dans leur âme la nécessité qui les obligeait de ramper devant ce visage. J'en voyais d'autres, au contraire, qui riaient en eux-mêmes de son air fat et suffisant. J'avais beau faire ces observations, je n'étais pas capable d'en profiter. J'en usais chez moi comme lui, et je ne me souciais guère qu'on approuvât ou qu'on blâmât mes manières orgueilleuses, pourvu qu'elles fussent respectées. Don Rodrigue, ayant par hasard jeté les yeux sur moi, quitta brusquement un gentilhomme qui lui parlait et vint m'embrasser avec des démonstrations d'amitié qui me surprirent. « Ah, mon cher confrère, s'écria-t-il, quelle affaire me procure le plaisir de vous voir ici? Qu'y a-t-il pour votre service ?» Je lui appris le sujet qui m'amenait, et là-dessus, il m'assura, dans les termes les plus obligeants, que le lendemain, à pareille heure, ce que je demandais serait expédié. Il ne borna point là sa politesse. Il me conduisit jusqu'à la porte de son antichambre, où il ne conduisait jamais que de grands seigneurs, et là, il m'embrassa de nouveau. « Que signifient toutes ces honnêtetés ? » disais-je en m'en allant. « Que me présage-t-elle ? » Calderon méditerait-il ma perte, ou bien aurait-il envie de gagner mon amitié? Ou, pressentant que sa faveur est sur son déclin, me ménagerait-il dans la vue de me prier d'intercéder pour lui auprès de notre patron? Je ne savais à laquelle de ces conjectures je devais m'arrêter. Le jour suivant, lorsque je retournai chez lui, il me traita de la même façon. Il m'accabla de caresses et de civilités. Il est vrai qu'il les rabattit sur la réception qu'il fit aux autres personnes qui se présentaient pour lui parler. Il brusqua les uns, battit froid aux autres, il mécontenta presque tout le monde. Mais ils furent tous assez vengés par une aventure qui arriva et que je ne dois point passer sous silence. Ce sera un avis au lecteur pour les commis et les secrétaires qui la liront. Un homme, vêtu fort simplement et qui ne paraissait pas ce qu'il était, s'approcha de Calderon et lui parla d'un certain mémoire qu'il disait avoir présenté au duc de Lerme. Don Rodrigue ne regarda pas seulement le cavalier et lui dit d'un ton brusque « Comment vous appelle-t-on, mon ami ?»« L'on m'appelait Francillo dans mon enfance, » lui répondit de sang-froid le cavalier. « On m'a depuis nommé Don Francisco de Zuniga et je me nomme aujourd'hui le comte de Petrosa. » Calderon, étonné de ces paroles, et voyant qu'il avait affaire à un homme de la première qualité, voulut s'excuser. « Seigneur, dit-il au comte, je vous demande pardon si, ne vous connaissant pas, Je ne veux point de tes excuses, interrompit avec hauteur Francillot. Je les méprise autant que tes malhonnêtetés. Apprends qu'un secrétaire de ministre doit recevoir honnêtement toutes sortes de personnes. Sois, si tu veux, assez vain pour te regarder comme le substitut de ton maître, mais n'oublie pas que tu n'es que son valet. Le superbe Don Rodrigue fut fort mortifié de cet incident. Il n'en devint toutefois pas plus raisonnable. Pour moi, je marquai cette chasse-là. Je résolus de prendre garde à qui je parlerai dans mes audiences et de n'être insolent qu'avec des muets. Comme les patentes de Don Alphonse se trouvaient expédiées, je les emportai et les envoyai par un courrier extraordinaire à ce jeune seigneur avec une lettre du duc de Lerme, par laquelle son Excellence lui donnait avis que le roi venait de le nommer au gouvernement de Valence. Je ne lui mandai point la part que j'avais à cette nomination, je ne voulus pas même lui écrire, me faisant un plaisir de lui apprendre de bouche et de lui causer une agréable surprise lorsqu'il viendrait à la cour prêter serment pour son emploi. Chapitre 3. Des préparatifs qui se firent pour le mariage de Gil Blas et du grand événement qui les rendit inutiles. Revenons à ma belle Gabrielle. Je devais donc l'épouser dans 8 jours. Nous nous préparâmes de part et d'autre à cette cérémonie. Salero fit faire de riches habits pour la mariée, et j'arrêtai pour elle une femme de chambre, un laquais et un vieil écuyer, tout cela choisi par Scipion, qui attendait avec encore plus d'impatience que moi le jour qu'on me devait compter la dot. La veille de ce jour si désiré, je soupai chez le beau-père avec des oncles et des tantes, des cousins et des cousines. Je jouai parfaitement bien le rôle d'un gendre hypocrite. J'eus 1000 complaisances pour l'orfèvre et pour sa femme. Je contrefis le passionné auprès de Gabriel. Je gracieusai toute la famille, dont j'écoutais sans m'impatienter les plats discours et les raisonnements bourgeois. Aussi, pour prix de ma patience, j'eus le bonheur de plaire à tous les parents. Il n'y en eut pas un qui ne parût s'applaudir de mon alliance. Le repas fini, la compagnie passa dans une grande salle où on la régala d'un concert de voix et d'instruments qui ne fut pas mal exécuté, quoiqu'on n'eût pas choisi les meilleurs sujets de Madrid. Plusieurs airs gais, dont nos oreilles furent agréablement frappées, nous mirent de si belle humeur que nous commençâmes à former des danses. Dieu sait de quelle façon nous nous en acquittâmes, puisqu'on me prit pour un élève de Terpsichore, moi qui n'avais de principe de cet art que 2 ou 3 leçons que j'avais reçues chez la marquise de Chaves d'un petit maître à danser qui venait montrer aux pages. Après nous être bien divertis, il fallut songer à se retirer chez soi. Je prodiguai les révérences et les accolades. « Adieu, mon gendre !» me dit Salero en m'embrassant. « J'irai chez vous demain matin porter la dot en belles espèces d'or. »« Vous y serez le bienvenu, » lui répondis-je, « mon cher beau-père. » Ensuite, donnant le bonsoir à la famille, je gagnai mon équipage qui m'attendait à la porte et je pris le chemin de mon hôtel. J'étais à peine à 200 pas de la maison du seigneur Gabriel que 15 ou 20 hommes, les uns à pied, les autres à cheval, tous armés d'épées et de carabines, entourèrent mon carrosse et l'arrêtèrent en criant « De par le roi !» Ils m'en firent descendre brusquement pour me jeter dans une chaise roulante où le principal de ces cavaliers, étant monté avec moi, dit au cocher de toucher vers Ségovie. Je jugeai bien que c'était un honnête alguazil que j'avais à mon côté. Je voulus le questionner pour savoir le sujet de mon emprisonnement. Mais il me répondit sur le ton de ces messieurs-là, je veux dire brutalement, qu'il n'avait point de compte à me rendre. Je lui dis que peut-être il se méprenait. « Non, non, repartit-il, je suis sûr de mon fait. Vous êtes le seigneur de Santillane. C'est vous que j'ai ordre de conduire où je vous mène. » N'ayant rien à répliquer à ces paroles, je pris le parti de me taire. Nous roulâmes le reste de la nuit le long du Manzanares dans un profond silence. Nous changeâmes de chevaux à Colmenar et nous arrivâmes sur le soir à Ségovie, où l'on m'enferma dans la tour. Chapitre 4. comment Gil Blas fut traité dans la tour de Ségovie et de quelle manière il apprit la cause de sa prison. On commença par me mettre dans un cachot où l'on me laissa sur la paille, comme un criminel digne du dernier supplice. Je passai la nuit, non pas à me désoler, car je ne sentais pas encore tout mon mal, mais à chercher dans mon esprit ce qui pouvait avoir causé mon malheur. Je ne doutais pas que ce ne fût l'ouvrage de Calderon. Cependant, j'avais beau le soupçonner d'avoir tout découvert, je ne concevais pas comment il avait pu porter le duc de Lerme à me traiter si cruellement. Tantôt, je m'imaginais que c'était à l'insu de son Excellence que j'avais été arrêté, et tantôt je pensais que c'était elle-même qui, pour quelque raison politique, m'avait fait emprisonner, ainsi que les ministres en usent quelquefois avec leurs favoris. J'étais vivement agité de mes diverses conjectures quand la clarté du jour, perçant au travers d'une petite fenêtre grillée, vint offrir à ma vue toute l'horreur du lieu où je me trouvais. Je m'affligeai alors sans modération, et mes yeux devinrent deux sources de larmes que le souvenir de ma prospérité rendait intarissable. Pendant que je m'abandonnais à ma douleur, il vint dans mon cachot un guichetier qui m'apportait un pain et une cruche d'eau pour ma journée. Il me regarda, et remarquant que j'avais le visage baigné de pleurs, tout guichetier qu'il était, il sentit un mouvement de pitié. « Seigneur prisonnier, me dit-il, ne vous désespérez point. Il ne faut pas être si sensible aux traverses de la vie. Vous êtes jeune. Après ce temps-ci, vous en verrez un autre. En attendant, mangez de bonne grâce le pain du roi. » Mon consolateur sortit en achevant ces paroles, auxquelles je ne répondis que par des plaintes et des gémissements. Et j'employai le reste du jour à maudire mon étoile, sans songer à faire honneur à mes provisions, qui, dans l'état où j'étais, me semblaient moins un présent de la bonté du roi qu'un effet de sa colère, puisqu'elles servaient plutôt à prolonger qu'à soulager les peines des malheureux. La nuit vint pendant ce temps-là, et bientôt un grand bruit de clés attira mon attention. La porte de mon cachot s'ouvrit, et un moment après, il entra un homme qui portait une bougie. Il s'approcha de moi et me dit « Seigneur Gil Blas, vous voyez un de vos anciens amis. Je suis ce Don André de Tordesilla qui demeurait avec vous à Grenade et qui était gentilhomme de l'archevêque dans le temps que vous possédiez les bonnes grâces de ce prélat. Vous le priâtes, s'il vous en souvient, d'employer son crédit pour moi, et il me fit nommer pour aller remplir un emploi au Mexique. Mais au lieu de m'embarquer pour les Indes, je m'arrêtai dans la ville d'Alicante. J'y épousai la fille du capitaine du château, et par une suite d'aventures, dont je vous ferai tantôt le récit, je suis devenu le châtelain de la tour de Ségovie. C'est un bonheur pour vous, continua-t-il, de rencontrer dans un homme chargé de vous maltraiter un ami qui n'épargnera rien pour adoucir la rigueur de votre prison. Il m'est expressément ordonné de ne vous laisser parler à personne, de vous faire coucher sur la paille et de ne vous donner pour toute nourriture que du pain et de l'eau. Mais, outre que j'ai trop d'humanité pour ne pas compatir à vos maux, vous m'avez rendu service et ma reconnaissance l'emporte sur les ordres que j'ai reçus. Loin de servir d'instrument à la cruauté qu'on veut exercer sur vous, je prétends vous traiter le mieux qu'il me sera possible. Levez-vous et venez avec moi. » Quoique le seigneur châtelain méritât bien quelques remerciements, mes esprits étaient si troublés que je ne pus lui répondre un seul mot. Je ne laissai pas de le suivre. Il me fit traverser une cour et monter par un escalier fort étroit à une petite chambre qui était tout au haut de la tour. Je ne fus pas peu surpris, en entrant dans cette chambre, de voir sur une table deux chandelles qui brûlaient dans des flambeaux de cuivre et deux couverts assez propres. « Dans un moment, me dit Tordesilla, on va vous apporter à manger. Nous allons souper ici tous deux. C'est ce réduit que je vous ai destiné pour logement. Vous y serez mieux que dans votre cachot. Vous verrez de votre fenêtre les bords fleuris de l'Erema et la vallée délicieuse qui, du pied des montagnes, qui sépare les deux Castilles, s'étend jusqu'à Coca. Je ne doute pas que d'abord vous ne soyez peu sensible à une si belle vue. Mais quand le temps aura fait succéder une douce mélancolie à la vivacité de votre douleur, vous prendrez plaisir à promener vos regards sur des objets si agréables. Outre cela, comptez que le linge et les autres choses qui sont nécessaires à un homme qui aime la propreté ne vous manqueront pas. De plus, vous serez bien couché, bien nourri, et je vous fournirai des livres tant que vous en voudrez. En un mot, tous les agréments qu'un prisonnier peut avoir. À des offres si obligeantes, je me sentis un peu soulagé. Je pris courage et rendis mille grâces à mon geôlier. Je lui dis qu'il me rappelait à la vie par son procédé généreux et que je souhaitais de me retrouver en état de lui en témoigner ma reconnaissance. « Et pourquoi ne vous y retrouveriez-vous pas ? » me répondit-il. « Croyez-vous avoir perdu pour jamais la liberté ? Si vous vous imaginez cela, vous êtes dans l'erreur, et j'ose vous assurer que vous en serez quitte pour quelques mois de prison. »«
Que dites-vous, Seigneur Don André ? » m'écriai-je. « Il semble que vous sachiez le sujet de mon infortune. »«
Je vous avouerai, » me repartit-il, « que je ne l'ignore pas. L'alguazil qui vous a conduit ici m'a conté ce secret que je puis vous révéler. Il m'a dit que le roi, informé que vous aviez, le comte de Lemos et vous, menez le prince d'Espagne chez une dame suspecte, venez pour vous en punir d'exiler le comte et vous envoyez, vous, à la tour de Ségovie pour y être traité avec toute la rigueur que vous avez éprouvée depuis que vous y êtes.
Comment ? Lui dis-je. Cela est-il venu à la connaissance du roi ? C'est particulièrement de cette circonstance que je voudrais être instruit.
Et c'est, répondit-il, ce que l'alguazil ne m'a point appris, et ce qu'apparemment il ne sait pas lui-même. Dans cet endroit de notre conversation, plusieurs valets qui apportaient le souper entrèrent. Ils mirent sur la table du pain, deux tasses, deux bouteilles et trois grands plats, dans l'un desquels il y avait un civet de lièvre avec beaucoup d'oignons, d'huile et de safran, dans l'autre une olla podrida, et dans le troisième un dindonneau sur une marmelade de bérangena. Lorsque Tordesilla vit que nous avions tout ce qu'il nous fallait, il renvoya ses domestiques, ne voulant pas qu'ils entendissent notre entretien. Il ferma la porte, et nous nous assîmes tous deux vis-à-vis l'un de l'autre.
« Commençons, me dit-il, par le plus pressé. Vous devez avoir bon appétit après deux jours de diète. »
En parlant de cette sorte, il chargea mon assiette de viande. Il s'imaginait servir un affamé, et il avait effectivement sujet de penser que j'allais m'empiffrer de ses ragoûts. Néanmoins, je trompais son attente. Quelque besoin que j'eusse de manger, les morceaux me restaient dans la bouche, tant j'avais le cœur serré de ma condition présente. Pour écarter de mon esprit les images cruelles qui venaient sans cesse l'affliger, mon châtelain avait beau m'exciter à boire et vanter l'excellence de son vin, m'eût-il donné du nectar, je l'aurais alors bu sans plaisir. Il s'en aperçut, et s'y prenant d'une autre façon, il se mit à me conter, d'un style égayé, l'histoire de son mariage. Il y réussit encore moins par là. J'écoutais son récit avec tant de distraction que je n'aurais pu dire lorsqu'il l'eut fini ce qu'il venait de me raconter. Il jugea bien qu'il entreprenait trop de vouloir ce soir-là faire quelque diversion à mes chagrins. Il se leva de table après avoir achevé de souper et me dit « Seigneur de Santillane, je vais vous laisser reposer, ou plutôt rêver en liberté à votre malheur. Mais je vous le répète, il ne sera pas de longue durée. Le roi est bon naturellement. » Quand sa colère sera passée et qu'il se représentera la situation déplorable où il croit que vous êtes, vous lui paraîtrez assez puni. » À ces mots, le seigneur châtelain descendit et fit monter ses valets pour desservir. Ils emportèrent jusqu'au flambeau, et je me couchai à la sombre clarté d'une lampe qui était attachée au mur. Chapitre 5. Des réflexions qu'il fit cette nuit avant que de s'endormir, et du bruit qui le réveilla. Je passai 2 heures, pour le moins, à réfléchir sur ce que Tordesilla m'avait appris. « Je suis donc ici, disais-je, pour avoir contribué au plaisir de l'héritier de la couronne ? Quelle imprudence aussi d'avoir rendu de pareils services à un prince si jeune, car c'est sa grande jeunesse qui fait tout mon crime. S'il était dans un âge plus avancé, le roi peut-être n'aurait fait que rire de ce qui l'a si fort irrité. Mais qui peut avoir donné un semblable avis à ce monarque sans appréhender le ressentiment du prince ni celui du duc de Lerme? Ce ministre voudra venger sans doute le comte de Lemos, son neveu. Comment le roi a-t-il découvert cela? C'est ce que je ne comprends point. J'en revenais toujours là. L'idée pourtant la plus affligeante pour moi, celle qui me désespérait et dont mon esprit ne pouvait se détacher, c'était le pillage auquel je m'imaginais bien que tous mes effets avaient été abandonnés. « Mon coffre-fort » m'écriai-je. « Où êtes-vous, mes chères richesses? Qu'êtes-vous devenues? Dans quelles mains êtes-vous tombées? Hélas, je vous ai perdu en moins de temps encore que je ne vous avais gagné. » Je me peignais le désordre qui devait régner dans ma maison, et je faisais sur cela des réflexions toutes plus tristes les unes que les autres. La confusion de tant de pensées différentes me jeta dans un accablement qui me devint favorable. Le sommeil qui m'avait fui la nuit précédente vint répandre sur moi ses pavots. La bonté du lit, la fatigue que j'avais soufferte, ainsi que la fumée des viandes et du vin y contribuèrent aussi. Je m'endormis profondément, et selon toutes les apparences, le jour m'aurait surpris dans cet état, si je n'eusse été réveillé tout à coup par un bruit assez extraordinaire dans les prisons. J'entendis le son d'une guitare et la voix d'un homme en même temps. J'écoute avec attention, je n'entends plus rien. Je crois que c'est un songe. Mais un instant après, mon oreille fut frappée du son du même instrument et de la même voix qui chantait les vers suivants. « Haide mi un anno felice, parece un soplo leggero, però sin dicha un instante es un siglo de tormento. » Ce couplet qui paraissait avoir été fait exprès pour moi irrita mes ennuis. « Je n'éprouve que trop, disais-je, la vérité de ces paroles. » Il me semble que le temps de mon bonheur s'est écoulé bien vite et qu'il y a déjà un siècle que je suis en prison. Je me replongeai dans une affreuse rêverie et recommençai à me désoler comme si j'y eusse pris plaisir. Mes lamentations finirent avec la nuit et les premiers rayons du soleil dont ma chambre fut éclairée calmèrent un peu mes inquiétudes. Je me levai pour aller ouvrir ma fenêtre et donner de l'air à ma chambre. Je regardais dans la campagne, dont je me souviens que le seigneur Châtelain m'avait fait une belle description. Je ne trouvais pas de quoi justifier ce qu'il m'en avait dit. L'Erema, que je croyais du moins égal au Tage, ne me parut qu'un ruisseau. L'ortie seule et le chardon paraient ses bords fleuris, et la prétendue vallée délicieuse n'offrit à ma vue que des terres dont la plupart étaient incultes. Apparemment que je n'en étais pas encore à cette douce mélancolie qui devait me faire voir les choses autrement que je ne les voyais alors. Je commençais à m'habiller, et déjà j'étais à demi vêtue, quand Tordesilla arriva, suivi d'une vieille servante qui m'apportait des chemises et des serviettes. « Seigneur Gil Blas, me dit-il, voici du linge, ne le ménagez pas, j'aurai soin que vous en ayez toujours de reste. » Eh bien, ajouta-t-il. « Comment avez-vous passé la nuit? Le sommeil a-t-il suspendu vos peines pour quelques moments ?»« Je dormirai peut-être encore, lui répondis-je, si je n'eusse pas été réveillé par une voix accompagnée d'une guitare. » »« Le cavalier qui a troublé votre repos, reprit-il, est un prisonnier d'État qui a sa chambre à côté de la vôtre. Il est chevalier de l'ordre militaire de Calatrava, et il a une figure tout aimable. » Il s'appelle Don Gaston de Cogolos. Vous pourrez vous voir tous deux et manger ensemble. Vous trouverez une consolation mutuelle dans vos entretiens. Vous vous serez l'un à l'autre d'un grand agrément. Je témoignai à Don André que j'étais très sensible à la permission qu'il me donnait d'unir ma douleur avec celle de ce cavalier. Et comme je marquais quelque impatience de connaître ce compagnon de malheur, notre obligeant châtelain me procura cette satisfaction dès ce jour-là même. Il me fit dîner avec Don Gaston,
qui me surprit par sa bonne mine et par sa beauté. Jugez quel homme ce devait être pour éblouir des yeux accoutumés à voir la plus brillante jeunesse de la cour. Imaginez-vous un homme fait à plaisir, un de ces héros de roman qui n'avait qu'à se montrer pour causer des insomnies aux princesses. Ajoutons à cela que la nature, qui mêle ordinairement ses dons, avait doué Cogolos de beaucoup d'esprit et de valeur. C'était un cavalier parfait. Si ce cavalier me charma, j'eus de mon côté le bonheur de ne lui pas déplaire. Il ne chanta plus la nuit, de peur de m'incommoder, quelque prière que je lui fisse de ne pas se contraindre pour moi. Une liaison est bientôt formée entre deux personnes qu'un mauvais sort opprime. Une tendre amitié suivit de près notre connaissance et devint plus forte de jour en jour. La liberté que nous avions de nous parler quand il nous plaisait nous fut très utile, puisque par nos conversations, nous nous aidâmes réciproquement tous deux à prendre notre mal en patience. Une après-dînée, j'entrai dans sa chambre comme il se disposait à jouer de la guitare. Pour l'écouter plus commodément, je m'assis sur une sellette qu'il y avait là pour tout siège. Et lui, s'étant mis sur le pied de son lit, il joua un air fort touchant et chanta dessus des paroles qui exprimaient le désespoir où la cruauté d'une dame réduisait un amant. Lorsqu'il les eut chantées, je lui dis en souriant « Seigneur chevalier, voilà des vers que vous ne serez jamais obligé d'employer dans vos galanteries. Vous n'êtes pas fait pour trouver des femmes cruelles. » « Vous avez trop bonne opinion de moi, » me répondit-il. « J'ai composé pour mon compte les vers que vous venez d'entendre, pour amollir un cœur que je croyais de diamant, pour attendrir une dame qui me traitait avec une extrême rigueur. Il faut que je vous fasse le récit de cette histoire. Vous apprendrez en même temps celle de mes malheurs. » Chapitre 6. Histoire de Don Gaston de Cogolos et de Donna Hélène de Calisteo. Il y aura bientôt 4 ans que je partis de Madrid pour aller à Coria voir Donna Eleonore de Laxaria, ma tante, qui est une des plus riches douairières de la Castille vieille et qui n'a point d'autre héritier que moi. Je fus à peine arrivée chez elle que l'amour y vint troubler mon repos. Elle me donna un appartement dont les fenêtres faisaient face aux jalousies d'une dame qui demeurait vis-à-vis et que je pouvais facilement remarquer, tant ses grilles étaient peu serrées et la rue étroite. Je ne négligeais pas cette possibilité, et je trouvais ma voisine si belle que j'en fus d'abord enchantée. Je le lui marquai aussitôt par des œillades si vives qu'il n'y avait pas à s'y méprendre. Elle s'en aperçut bien, mais elle n'était pas fille à faire trop fait d'une pareille observation, et encore moins à répondre à mes minauderies. Je voulus savoir le nom de cette dangereuse personne qui troublait si promptement les cœurs. J'appris qu'on la nommait Donna Elena, qu'elle était fille unique de Don George de Calisteo, qui possédait quelques lieux de Coria, un fief dominant d'un revenu considérable, qu'il se présentait souvent des parties pour elle, mais que son père les rejetait tous, parce qu'il était dans le dessein de la marier à Don Augustin de Olighera, son neveu, qui, en attendant ce mariage, avait la liberté de voir et d'entretenir tous les jours sa cousine. Cela ne me découragea point. Au contraire, j'en devins plus amoureux. Et l'orgueilleux plaisir de supplanter un rival aimé m'excita peut-être encore plus que mon amour à pousser ma pointe. Je continuai donc de lancer à mon Hélène des regards enflammés. J'en adressai aussi de suppliants à Félicia, sa suivante, comme pour implorer son secours. Je fis même parler mes doigts. Mais ces galanteries furent inutiles. Je ne tirai pas plus de raison de la soubrette que de la maîtresse. Elles firent toutes deux les cruelles et les inaccessibles. Puisqu'elles refusaient de répondre au langage de mes yeux, j'eus recours à d'autres interprètes. Je mis des gens en campagne pour déterrer les connaissances que Félicia pouvait avoir dans la ville. Ils découvrirent qu'une vieille dame, appelée Théodora, était sa meilleure amie et qu'elle se voyait fort souvent. Ravie de cette découverte, j'allai moi-même trouver Théodora, que j'engageai par des présents à me servir. Elle prit parti pour moi,
me promit de me ménager chez elle un entretien secret avec son amie et tint sa promesse dès le lendemain. « Je cesse d'être malheureux, » dis-je à Félicia, « puisque mes peines ont excité votre pitié. Que ne dois-je point à votre amie de vous avoir disposé à m'accorder la satisfaction de vous entretenir ?»«
Seigneur, » me répondit-elle, « Théodora peut tout sur moi. Elle m'a mise dans vos intérêts, et si je pouvais faire votre bonheur, vous seriez bientôt au comble de vos vœux. Mais, avec toute ma bonne volonté, je ne sais si je vous serai d'un grand secours. Il ne faut pas vous flatter, vous n'avez jamais formé d'entreprise plus difficile. Vous aimez une dame prévenue pour un autre cavalier. Et quelle dame encore ? Une dame si fière et si dissimulée que si, par votre constance et par vos soins, vous parvenez à lui arracher des soupirs, ne pensez pas que sa fierté vous donne le plaisir de les entendre.
Oh, ma chère Félicia, m'écriai-je avec douleur, pourquoi me faites-vous connaître tous les obstacles que j'ai à surmonter? Ce détail m'assassine. Trompez-moi plutôt que de me désespérer.
À ces mots, je pris une de ses mains, je la pressai entre les miennes, et je lui mis au doigt un diamant de 300 pistoles, en lui disant des choses si touchantes que je la fis pleurer. Elle était trop émue de mon discours et trop contente de mes manières pour me laisser sans consolation. Elle aplanit un peu les difficultés.
« Seigneur, me dit-elle, ce que je viens de vous représenter ne doit pas vous ôter toute espérance. Votre rival, il est vrai, n'est pas haï. Il vient au logis voir librement sa cousine, il lui parle quand il lui plaît, et c'est ce qui vous est favorable. » L'habitude où ils sont tous deux d'être ensemble tous les jours rend leur commerce un peu languissant. Ils me paraissent se quitter sans peine et se revoir sans plaisir. On dirait qu'ils sont déjà mariés. En un mot, je ne vois point que ma maîtresse ait une passion violente pour Don Augustin. D'ailleurs, il y a entre vous et lui, pour les qualités personnelles, une différence qui ne doit pas être inutilement remarquée par une fille aussi délicate que Donna Elena. Ne perdez donc pas courage. Continuez vos galanteries. Je ne laisserai pas échapper une occasion de faire valoir à ma maîtresse tout ce que vous ferez pour lui plaire. Elle aura beau se déguiser, à travers sa dissimulation, je démêlerai bien ses sentiments. Nous nous séparâmes, Félicia et moi, fort satisfaits l'un de l'autre après cette conversation. Je m'apprêtais sur nouveaux frais à lorgner la fille de Don Georges. Je la régalai d'une sérénade dans laquelle je fis chanter par une belle voix les vers que vous venez d'entendre. Après le concert, la suivante, pour sonder sa maîtresse, lui demanda si elle s'était divertie. « La voix, dit Donna Elena, m'a fait plaisir. » « Et les paroles qu'elle a chantées, répliqua la soubrette, ne sont-elles pas fort touchantes ?»«
C'est à quoi, répartit la dame, je n'ai fait aucune attention. Je n'ai nullement pris garde au vers, ni ne me soucie guère de savoir qui m'a donné cette sérénade.
Sur ce pied-là, s'écria la suivante, le pauvre Don Gaston de Cogolos est très éloigné de son compte et bien fou de passer son temps à regarder nos jalousies.
Ce n'est peut-être pas lui, dit la maîtresse d'un air froid. « C'est quelque autre cavalier qui vient par ce concert me déclarer sa passion. »«
Vous êtes dans l'erreur. »«
Pardonnez-moi, » répondit Félicia, « c'est Don Gaston lui-même, à telles enseignes qu'il m'a ce matin abordé dans la rue. Il m'a même prié de vous dire de sa part qu'il vous adore, malgré les rigueurs dont vous payez son amour, et qu'enfin il s'estimerait le plus heureux de tous les hommes si vous lui permettiez de vous marquer sa tendresse par ses soins et par des fêtes galantes.
« Ces discours, poursuivit-elle, vous prouvent assez que je ne me trompe pas. »
La fille de Don Georges changea tout à coup de visage, et regardant sa suivante d'un air sévère,
« Vous auriez bien pu, lui dit-elle, vous passer de me rapporter cet impertinent entretien. « Qu'il ne vous arrive plus, s'il vous plaît, de me venir faire de pareils rapports. Et si ce jeune téméraire ose encore vous parler, je vous ordonne de lui dire qu'il s'adresse à une personne qui fasse plus de cas de ses galanteries, et qu'il choisisse un plus honnête passe-temps que celui d'être toute la journée à ses fenêtres à observer ce que je fais dans mon appartement. » Tout cela me fut fidèlement détaillé dans une seconde entrevue par Félicia, qui, prétendant qu'il ne fallait pas prendre au pied de la lettre les paroles de sa maîtresse, voulait me persuader que mes affaires allaient le mieux du monde. Pour moi, qui n'y entendais pas finesse et qui ne croyais pas qu'on pût expliquer le texte en ma faveur, je me défiais des commentaires qu'elle me faisait. Elle se moqua de ma défiance, demanda du papier et de l'encre à son ami et me dit « Seigneur chevalier, écrivez tout à l'heure à Donna Elena en amant désespéré. Peignez-lui vivement vos souffrances et surtout plaignez-vous de la défense qu'elle vous fait de paraître à vos fenêtres. Promettez-moi d'obéir, mais assurez qu'il vous en coûtera la vie. Tournez-moi cela comme vous le savez si bien faire, vous autres cavaliers, et je me charge du reste. J'espère que l'événement fera plus d'honneur que vous n'en faites à ma pénétration. » J'aurais donc été le premier amant qui, trouvant une si belle occasion d'écrire à sa maîtresse, n'en eût pas profité. Je composai une lettre des plus pathétiques. Avant que de la plier, je la montrai à Félicia, qui sourit après l'avoir lue, et me dit que si les femmes savaient l'art d'entêter les hommes, en récompense les hommes n'ignoraient pas celui d'enjoler les femmes. La soubrette prit mon billet, en m'assurant qu'il ne tiendrait pas à elle qu'il ne produisît un bon effet. Puis, m'ayant recommandé d'avoir soin que mes fenêtres fussent fermées pendant quelques jours, elle retourna chez Don George. « Madame, dit-elle en arrivant à Donna Elena, j'ai rencontré Don Gaston. Il n'a pas manqué de venir à moi et de vouloir me tenir des discours flatteurs. Il m'a demandé d'une voix tremblante et comme un coupable qui attend son arrêt si je vous avais parlé de sa part. Alors, prompte à exécuter vos ordres, je lui ai coupé brusquement la parole. Je me suis déchaînée contre lui. Je l'ai chargé d'injures et laissé dans la rue étourdi de ma pétulance. « Je suis ravie, répondit Donna Elena, que vous m'ayez débarrassée de cet importun. Mais il n'était pas nécessaire de lui parler brutalement. Il faut toujours qu'une fille ait de la douceur. » « Madame, répliqua la suivante, on ne se défait pas d'un amant passionné par des paroles prononcées d'un air doux. On n'en vient pas même toujours à bout par des fureurs et des emportements. Don Gaston, par exemple, ne s'est pas rebuté. Après l'avoir accablé d'injures, comme je vous l'ai dit, j'ai été chez votre parente où vous m'avez envoyé. Cette dame, par malheur, m'a retenu trop longtemps. Je dis trop longtemps, puisqu'en revenant, j'ai retrouvé mon homme. Je ne m'attendais plus à le revoir. Sa vue m'a troublée, mais si troublée, que ma langue, qui ne me manque jamais dans l'occasion, n'a pu me fournir une parole. Pendant ce temps-là, qu'a-t-il fait ? Il a profité de mon silence, ou plutôt de mon désordre. Il m'a glissé dans la main un papier que j'ai gardé, sans savoir ce que je faisais, et il a disparu dans le moment. » En parlant ainsi, elle tira de son sein ma lettre, qu'elle remit tout en badinant à sa maîtresse, qui, l'ayant prise comme pour s'en divertir, la lut à bon compte, et fit ensuite la réserver. « En vérité, Félicia, dit-elle d'un air sérieux à sa suivante, vous êtes une étourdie, une folle d'avoir reçu ce billet. Que peut penser de cela, Don Gaston? Et qu'en dois-je croire moi-même? Vous me donnez lieu, par votre conduite, de me défier de votre fidélité, et à lui de me soupçonner d'être sensible à sa passion. Hélas, peut-être s'imagine-t-il en cet instant que je lis et relis avec plaisir les caractères qu'il a tracés. Voyez à quelle honte vous exposez ma fierté. » « Oh, que non, madame !» lui répondit la soubrette. « Il ne saurait avoir cette pensée, et supposer qu'il l'eût, il ne l'aura pas longtemps. Je lui dirai à la première vue que je vous ai montré sa lettre, que vous l'avez regardée d'un air glacé, et qu'enfin, sans la lire, vous l'avez déchirée avec un mépris froid. » « Vous pourrez hardiment, » reprit Donna Elena, « lui jurer que je ne l'ai point lue. Je serais bien embarrassée s'il me fallait seulement en dire de paroles. » La fille de Don George ne se contenta pas de parler de cette sorte. Elle déchira mon billet et défendit à sa suivante de l'entretenir jamais de moi. Comme j'avais promis de ne plus faire le galant à mes fenêtres, puisque ma vue déplaisait, je l'ai enfermé pendant plusieurs jours pour rendre mon obéissance plus touchante. Mais, au défaut des mines qui m'étaient interdites, je me préparais à donner de nouvelles sérénades à ma cruelle Hélène. Je me rendis une nuit sous son balcon avec des musiciens, et déjà les guitares se faisaient entendre lorsqu'un cavalier, l'épée à la main, vint troubler le concert en frappant à droite et à gauche sur les concertants qui prirent aussitôt la fuite. La fureur qui animait cet audacieux excita la mienne. Je m'avance pour le punir et nous commençons un rude combat. Donna Helena et sa suivante entendent le bruit des épées. Elles regardent au travers de leur jalousie et voient deux hommes qui sont aux mains. Elles poussent de grands cris qui obligent Don George et ses valets à se lever. Ils sont bientôt sur pied et ils accourent, de même que plusieurs voisins, pour séparer les combattants. Mais ils arrivèrent trop tard. Ils ne trouvèrent sur le champ de bataille qu'un cavalier noyé dans son sang et presque sans vie. Et ils reconnurent que j'étais ce cavalier infortuné. On m'emporta chez ma tante, où les plus habiles chirurgiens de la ville furent appelés. Tout le monde me plaignit, et particulièrement Donna Helena, qui laissa voir alors le fond de son cœur. Sa dissimulation céda au sentiment. Le croirez-vous? Ce n'était plus cette fille qui se faisait un point d'honneur de paraître insensible à mes galanteries. C'était une tendre amante qui s'abandonnait sans réserve à sa douleur. Elle passa le reste de la nuit à pleurer avec sa suivante et à maudire son cousin, Don Augustin de Oliguera, qu'elle jugeait devoir être l'auteur de leurs larmes. Comme en effet c'était lui qui avait si désagréablement interrompu la sérénade. Aussi dissimulé que sa cousine, il s'était aperçu de mes intentions, sans en rien témoigner, et s'imaginant qu'elle y répondait, il avait fait cette action vigoureuse pour montrer qu'il était moins endurant qu'on ne le croyait. Néanmoins, ce triste accident fut peu de temps après suivi d'une joie qui le fit oublier. Tout dangereusement blessé que j'étais, l'habileté des chirurgiens me tira d'affaire. Je gardais encore la chambre quand Donna Eleonore, ma tante, alla trouver Don George et lui demanda pour moi Donna Helena. Il consentit d'autant plus volontiers à ce mariage qu'il regardait alors Don Augustin comme un homme qu'il ne reverrait peut-être jamais. Le bon vieillard appréhendait que sa fille eût de la répugnance à se donner à moi, à cause que le cousin Oliguera avait eu la liberté de la voir et tout le loisir de s'en faire aimer. Mais elle parut si disposée à obéir en cela à son père qu'on peut conclure de là qu'en Espagne ainsi qu'ailleurs, c'est un avantage d'être un nouveau venu auprès des femmes. Sitôt que je pus avoir une conversation particulière avec Félicia, j'appris jusqu'à quel point sa maîtresse avait été sensible au malheureux succès de mon combat. Si bien que, ne pouvant plus douter que je ne fusse le Paris de mon Hélène, je bénissais ma blessure, puisqu'elle avait de si heureuses suites pour mon amour. J'obtins du seigneur Don George la permission de parler à sa fille, en présence de la suivante. Que cet entretien fut doux pour moi! Je priais, je pressais tellement la dame de me dire si son père, en la livrant à ma tendresse, ne faisait aucune violence à ses sentiments, qu'elle m'avoua que je ne la devais point à sa seule obéissance. Depuis cet aveu plein de charme, je ne m'occupais que du soin de plaire et d'imaginer des fêtes galantes en attendant le jour de nos noces, qui devaient être célébrées par une magnifique cavalcade où toute la noblesse de Coria et des environs se préparait à briller. Je donnai un grand repas à une superbe maison de plaisance que ma tante avait aux portes de la ville du côté de Manroi. Don George et sa fille, avec tous leurs parents et leurs amis, en étaient. On y avait préparé, par mon ordre, un concert de voix et d'instruments et fait venir une troupe de comédiens de campagne pour y représenter une comédie. Au milieu du festin, on me vint dire qu'il y avait dans une salle un homme qui demandait à me parler d'une affaire très importante pour moi. Je me levai de table pour aller voir qui c'était. Je trouvai un inconnu qui avait l'air d'un valet de chambre. Il me présenta un billet que j'ouvris et qui contenait ces paroles. « Si l'honneur vous est cher, comme il le doit être à tout chevalier de votre ordre, vous ne manquerez pas demain matin de vous rendre dans la plaine de Montroy. Vous y trouverez un cavalier qui veut vous faire raison de l'offense que vous avez reçue de lui et vous mettre, s'il le peut, hors d'état d'épouser Donna Helena. » Don Augustin de Oliguera. Si l'amour a beaucoup d'empire sur les Espagnols, la vengeance en a encore bien davantage. Je ne lus pas ce billet d'un cœur tranquille. Au seul nom de Don Augustin, il s'alluma dans mes veines un feu qui me fit presque oublier les devoirs indispensables que j'avais à remplir ce jour-là. Je fus tenté de me dérober à la compagnie pour aller chercher sur le champ mon ennemi. Je me contraignis pourtant de peur de troubler la fête et dis à l'homme qui m'avait remis la lettre « Mon ami, vous pouvez dire au cavalier qui vous envoie que j'ai trop envie de me revoir aux prises avec lui pour n'être pas demain, avant le lever du soleil, dans l'endroit qu'il me marque. » Après avoir renvoyé le messager avec cette réponse, je rejoignis mes convives et repris ma place à table, où je composais si bien mon visage que personne n'eut aucun soupçon de ce qui se passait en moi. Je parus pendant le reste de la journée, occupé comme les autres des plaisirs de la fête, qui finit enfin au milieu de la nuit. L'assemblée se sépara, et chacun rentra dans la ville de la même manière qu'il en était sorti. Pour moi, je demeurai dans la maison de plaisance, sous prétexte d'y vouloir prendre le frais le lendemain matin. Mais ce n'était que pour me trouver plus tôt au rendez-vous. Au lieu de me coucher, j'attendis avec impatience la pointe du jour. Sitôt que je l'aperçus, je montai sur mon meilleur cheval et partis tout seul comme pour me promener dans la campagne. Je m'avance vers Montroy. Je découvre dans la plaine un homme à cheval qui vient de mon côté à bride abattue. Je vole à sa rencontre pour lui épargner la moitié du chemin. Nous nous joignons bientôt. C'était mon rival. « Chevalier, me dit-il insolemment, c'est à regret que j'en viens aux mains avec vous une seconde fois. » « Mais c'est votre faute. Après l'aventure de la sérénade, vous auriez dû renoncer de bonne grâce à la fille de Don George, ou bien vous tenir pour dit que vous n'en seriez pas quitte pour cela, si vous persistiez dans le dessein de lui plaire. « Vous êtes trop fier, lui répondis-je, d'un avantage que vous devez peut-être moins à votre adresse qu'à l'obscurité de la nuit. Vous ne songez pas que les armes sont journalières. Elles ne le sont pas pour moi. » répliqua-t-il d'un air arrogant. « Et je vais vous faire voir que, le jour comme la nuit, je sais punir les chevaliers audacieux qui vont sur mes brisées. » Je ne répartis à cet orgueilleux discours qu'en mettant promptement pied à terre. Don Augustin fit la même chose. Nous attachâmes nos chevaux à un arbre et nous commençâmes à nous battre avec une égale vigueur. J'avouerai de bonne foi que j'avais affaire à un ennemi qui savait mieux faire des armes que moi, bien que juste 2 années de salle. Il était consommé dans l'escrime. Je ne pouvais exposer ma vie à un plus grand péril. Néanmoins, comme il arrive assez souvent que le plus fort est vaincu par le plus faible, mon rival, malgré toute son habileté, reçut un coup d'épée dans le cœur et tomba raide mort un moment après. Je retournai aussitôt à la maison de plaisance, où j'appris ce qui venait de se passer à mon valet de chambre dont la fidélité m'était connue. Ensuite, je lui dis « Mon cher Ramir, avant que la justice puisse avoir connaissance de cet événement, prends un bon cheval et va informer ma tante de cette aventure. Demande-lui de ma part de l'or et des pierreries et viens me joindre à Plasencia. Tu me trouveras dans la première hôtellerie en entrant dans la ville. » Ramir s'acquitta de sa commission avec tant de diligence qu'il arriva 3 heures après moi à Plasencia. Il me dit que Donna Eleonore avait été plus réjouie qu'affligée d'un combat qui réparait l'affront que j'avais reçu au premier, et qu'elle m'envoyait tout son or et toutes ses pierreries pour me faire voyager agréablement dans les pays étrangers en attendant qu'elle eût accommodé mon affaire. Pour supprimer les circonstances superflues, je vous dirai que je traversais la Castille Nouvelle pour aller dans le royaume de Valence, m'embarquer à Denia.
Je passai en Italie, où je me mis en état de parcourir les cours et d'y paraître avec agrément. Tandis que, loin de mon Hélène, je me disposais à tromper, autant qu'il me serait possible, mon amour et mes ennuis, cette dame, à Coria, pleurait en secret mon absence. Au lieu d'applaudir aux poursuites que sa famille faisait contre moi au sujet de la mort d'Olighera, elle souhaitait au contraire qu'un prompt accommodement les fît cesser et attend mon retour. 6 mois étaient déjà écoulés depuis qu'elle m'avait perdue, et je crois que sa constance aurait toujours triomphé du temps, si elle n'eût eu que le temps à combattre. Mais elle eut des ennemis encore plus puissants. Don Blas de Combados, gentilhomme de la côte occidentale de Calice, vint à Coria recueillir une riche succession qui lui avait été vainement disputée par Don Miguel de Caprara, son cousin, et il s'établit dans ce pays-là, le trouvant plus agréable que le sien. Combados était bien fait, il paraissait doux et poli, et il avait l'esprit du monde le plus insinuant. Il eut bientôt fait connaissance avec tous les honnêtes gens de la ville, et sut toutes les affaires des uns et des autres. Il n'ignora pas longtemps que Don George avait une fille dont la beauté dangereuse semblait n'enflammer les hommes que pour leur malheur. Cela piqua sa curiosité. Il eut envie de voir une dame si redoutable. Il rechercha pour cet effet l'amitié de son père et sut si bien la gagner que le vieillard, le regardant déjà comme un gendre, lui donna l'entrée de la maison et la liberté de parler en sa présence à Donna Elena. Le Galicien ne tarda guère à devenir amoureux d'elle. C'était un sort inévitable. Il ouvrit son cœur à Don George, qui lui dit qu'il agréait sa recherche, mais que ne voulant pas contraindre sa fille, il la laissait maîtresse de sa main. Là-dessus, Don Blas mit en usage toutes les galanteries dont il put s'aviser pour plaire à cette dame, qui n'y fut aucunement sensible, tant elle était occupée de moi. Félicia était pourtant dans les intérêts du cavalier, qu'il avait engagé par des présents à servir son amour. Elle y employait toute son adresse. D'un autre côté, le père secondait la suivante par des remontrances. Et néanmoins, ils ne firent tous deux, pendant une année entière, que tourmenter Donna Elena, sans pouvoir me la rendre infidèle. Combados, voyant que Don George et Félicia s'intéressaient en vain pour lui, leur proposa un expédient pour vaincre l'opiniâtreté d'une amante si prévenue. « Voici, leur dit-il, ce que j'ai imaginé. Nous supposerons qu'un marchand de Goria vient de recevoir une lettre d'un négociant italien dans laquelle, après un détail de choses qui concerneront le commerce, on lira les paroles suivantes. Il est arrivé depuis peu à la cour de Parme un cavalier espagnol nommé Don Gaston de Cogolos. Il se dit neveu et unique héritier d'une riche veuve qui demeure à Coria, sous le nom de Donna Eleonore de Laxaria. Il recherche la fille d'un puissant seigneur, mais on ne veut pas la lui accorder qu'on ne soit informé de la vérité. Je suis chargé de m'adresser à vous pour cela. Mandez-moi donc, je vous prie, si vous connaissez ce Don Gaston et en quoi consistent les biens de sa tante. Votre réponse décidera de ce mariage. À Parme, ce, etc. » Cette fourberie ne parut au vieillard qu'un jeu d'esprit, qu'une ruse pardonnable aux amants. Et la soubrette, encore moins scrupuleuse que le bonhomme, l'approuva fort. L'invention leur sembla d'autant meilleure qu'ils connaissaient Hélène pour une fille fière et capable de prendre son parti sur le champ, pourvu qu'elle n'eût aucun soupçon de la supercherie. Don George se chargea de lui annoncer lui-même mon changement, et pour rendre la chose encore plus naturelle, de lui faire parler au marchand qui aurait reçu de Parme la prétendue lettre. Ils exécutèrent ce projet comme ils l'avaient formé. Le père, avec une émotion où il y avait en apparence de la colère et du dépit, dit à Donna Elena « Ma fille, je ne vous dirai plus que nos parents me prient tous les jours de ne permettre jamais que le meurtrier de Don Augustin entre dans notre famille. J'ai aujourd'hui une raison plus forte à vous dire pour vous détacher de Don Gaston. Mourez de honte de lui être si fidèle. C'est un volage, un perfide. Voilà une preuve certaine de son infidélité. Lisez vous-même cette lettre qu'un marchand de Cora vient de recevoir d'Italie. La tremblante Hélène prend ce papier supposé, en fait des yeux la lecture, épaisse tous les termes, et demeure accablée de la nouvelle de mon inconstance. Un sentiment de tendresse lui fit ensuite répandre quelques larmes. Mais bientôt, rappelant toute sa fierté, elle essuya ses pleurs et dit d'un ton ferme à son père « Seigneur, vous venez d'être témoin de ma faiblesse. Soyez-le aussi de la victoire que je vais remporter sur moi. C'en est fait, je n'ai plus que du mépris pour Don Gaston. Je ne vois en lui que le dernier des hommes. N'en parlons plus. Allons, rien ne me retient plus. Je suis prête à suivre Don Blas à l'hôtel. Que mon hymen précède celui du perfide qui a si mal répondu à mon amour. » Don George, transporté de joie à ces paroles, embrassa sa fille, loua la vigoureuse résolution qu'elle prenait, et s'applaudissant de l'heureux succès du stratagème, il se hâta de combler les vœux de mon rival. Donna Helena me fut ainsi ravie. Elle se livra brusquement à Combados, sans vouloir entendre l'amour qui lui parlait pour moi au fond de son cœur, sans douter même un instant d'une nouvelle qu'aurait dû trouver dans une amante moins de crédulité. L'orgueilleuse n'écouta que sa présomption. Le ressentiment de l'injure qu'elle s'imaginait que j'avais faite à sa beauté l'emporta sur l'intérêt de sa tendresse. Elle eut pourtant, peu de jours après son mariage, quelques remords de l'avoir précipité. Il lui vint dans l'esprit que la lettre du marchand pouvait avoir été supposée, et ce soupçon lui donna de l'inquiétude. Mais l'amoureux Don Blas ne laissait point à sa femme le temps de nourrir des pensées contraires à son repos. Il ne songeait qu'à l'amuser, et il y réussissait par une succession continuelle de plaisirs différents qu'il avait l'art d'inventer. Elle paraissait très contente d'un époux si galant, et ils vivaient tous deux dans une parfaite union, lorsque ma tante accommoda mon affaire avec les parents de Don Augustin. Elle m'écrivit aussitôt en Italie pour m'en donner avis. J'étais alors à Reggio, dans la Calabre ultérieure. Je passai en Sicile, sur les ailes de l'amour. Donna Eleonore, qui ne m'avait pas mandé le mariage de la fille de Don George, me l'apprit à mon arrivée, et remarquant qu'il m'affligeait, « Vous avez tort, me dit-elle, mon neveu, de vous montrer sensible à la perte d'une dame qui n'a pu vous demeurer fidèle. Croyez-moi, bannissez de votre cœur et de votre mémoire une personne qui n'est plus digne de vous occuper. » Comme ma tante ignorait qu'on eût trompé Donna Helena, elle avait raison de me parler ainsi, et elle ne pouvait me donner un conseil plus sage. Aussi, je me promis bien de le suivre, ou du moins d'affecter un air d'indifférence, si je n'étais pas capable de vaincre ma passion. Je ne pus toutefois résister à la curiosité de savoir de quelle manière ce mariage avait été fait. Pour en être instruit, je résolus de m'adresser à l'amie de Félicia, c'est-à-dire à la dame Théodora dont je vous ai déjà parlé. J'allai chez elle, j'y trouvai par hasard Félicia, qui, ne s'attendant à rien moins qu'à ma vue, en fut troublée et voulut sortir pour éviter l'éclaircissement qu'elle jugea bien que je lui demanderais. Je l'arrêtai. « Pourquoi me fuyez-vous ? » lui dis-je. « La parjure Hélène n'est-elle pas contente de m'avoir sacrifiée ? Vous a-t-elle défendu d'écouter mes plaintes ? Ou cherchez-vous seulement à m'échapper pour vous faire un mérite auprès de l'ingrate d'avoir refusé de les entendre ?»« Seigneur, me répondit la suivante, je vous avoue ingénument que votre présence me rend confuse. Je ne puis vous revoir sans me sentir déchirée de mille remords. On a séduit ma maîtresse, et j'ai eu le malheur d'être complice de la séduction. Après cela, puis-je sans honte vous voir paraître devant moi ?»« Oh, ciel ! » répliquai-je avec surprise. « Que m'osez-vous dire ? Expliquez-vous plus clairement. » Alors, la soubrette me fit le détail du stratagème dont s'était servi Combados pour m'enlever Donna Helena. Et s'apercevant que son récit me perçait le cœur, elle s'efforça de me consoler. Elle m'offrit ses bons offices auprès de sa maîtresse, me promit de la désabuser, de lui peindre mon désespoir, en un mot, de ne rien épargner pour adoucir la rigueur de ma destinée. Enfin, elle me donna des espérances qui soulagèrent un peu mes peines. Je passe les contradictions infinies qu'elle eut à essuyer de la part de Donna Helena
pour la faire consentir à me voir. Elle en vint pourtant à bout. Il fut résolu entre elles qu'on me ferait entrer secrètement chez Don Blas la première fois qu'il irait à une terre où il allait de temps en temps chasser et où il demeurait ordinairement un jour ou deux. Ce dessein s'exécuta bientôt. Le mari partit pour la campagne, on eut soin de m'en avertir et de m'introduire une nuit dans l'appartement de sa femme. Je voulus commencer la conversation par des reproches. On me ferma la bouche. « Il est inutile de rappeler le passé, » me dit la dame. « Il ne s'agit point ici de nous attendrir l'un l'autre, et vous êtes dans l'erreur, si vous me croyez disposé à flatter vos sentiments. »« Je vous le déclare, Don Gaston. Je n'ai prêté mon consentement à cette secrète entrevue, je n'ai cédé aux instances que m'en a faites, que pour vous dire de vive voix que vous ne devez songer désormais qu'à m'oublier. » Peut-être serais-je plus satisfaite de mon sort s'il était lié au vôtre, mais puisque le ciel en a ordonné autrement, je veux obéir à ses arrêts.
« Mais quoi, madame ? » lui répondis-je. « Ce n'est pas assez de vous avoir perdue. Ce n'est pas assez de voir l'heureux Don Blas posséder tranquillement la seule personne que je puisse aimer. Il faut encore que je vous bannisse de ma pensée. Vous voulez m'arracher mon amour, m'enlever l'unique bien qui me reste ? « Ah, cruel! Pensez-vous qu'il soit possible à un homme que vous avez une fois charmé de reprendre son cœur? Connaissez-vous mieux que vous ne faites, et cessez de m'exhorter vainement à vous ôter de mon souvenir. »«
Eh bien, » répliqua-t-elle avec précipitation, « cessez donc aussi d'espérer que je paie votre passion de quelque reconnaissance. Je n'ai qu'un mot à vous dire. L'épouse de Don Blas ne sera point l'amante de Don Gaston. » Prenez sur cela votre parti, et fuyez, ajouta-t-elle. Finissons promptement un entretien que je me reproche malgré la pureté de mes intentions et que je me ferai un crime de prolonger. À ces paroles qui m'ôtaient toute espérance, je tombai aux genoux de la dame. Je lui tins des discours touchants. J'employai jusqu'aux larmes pour l'attendrir. Mais tout cela ne servit qu'à exciter peut-être quelques sentiments de pitié qu'on se garda bien de laisser paraître et qui furent sacrifiés au devoir. Après avoir infructueusement épuisé les expressions tendres, les prières et les pleurs, ma tendresse se changea tout à coup en fureur. Je tirai mon épée pour m'en percer aux yeux de l'inexorable Hélène, qui ne s'aperçut pas plutôt de mon action qu'elle se jeta sur moi pour en prévenir les suites. « Arrêtez, Cogolos !» me dit-elle. « Est-ce ainsi que vous ménagez ma réputation ? En vous ôtant ainsi la vie, vous allez me déshonorer et faire passer mon mari pour un assassin. » Dans le désespoir qui me possédait, bien loin de donner à ces mots l'attention qu'ils méritaient, je ne songeais qu'à tromper les efforts que faisaient la maîtresse et la suivante pour me sauver de ma funeste main. Et je n'y aurais sans doute réussi que trop tôt, si Don Blas, qui avait été averti de notre entrevue, et qui, au lieu d'aller à la campagne, s'était caché derrière une tapisserie pour entendre notre entretien, ne fût vite venu se joindre à elle.
« Don Gaston !» s'écria-t-il en me retenant le bras. « Rappelez votre raison égarée, et ne cédez point lâchement au transport furieux qui vous agite. »
J'interrompis Combados. « Est-ce à vous, lui dis-je, à me détourner de ma résolution ? Vous devriez plutôt me plonger vous-même un poignard dans le sein. Mon amour, tout malheureux qu'il est, vous offense. N'est-ce pas assez que vous me surpreniez la nuit dans l'appartement de votre femme ? En faut-il davantage pour vous exciter à la vengeance ? Percez-moi pour vous défaire d'un homme qui ne peut cesser d'adorer Donna Helena qu'en cessant de vivre. »
« C'est en vain !» me répondit Don Blas, que vous tâchez d'intéresser mon honneur à vous donner la mort. Vous êtes assez puni de votre témérité, et je sais si bon gré à mon épouse de ses sentiments vertueux que je lui pardonne l'occasion où elle les a fait éclater.
Croyez-moi, Cogolos, ajouta-t-il, ne vous désespérez pas comme un faible amant. Soumettez-vous avec courage à la nécessité. Le prudent Galicien, par de semblables discours, calma peu à peu ma fureur et réveilla ma vertu. Je me retirai dans le dessein de m'éloigner d'Hélène et des lieux qu'elle habitait. 2 jours après, je retournai à Madrid. Là, ne voulant plus m'occuper que du soin de ma fortune, je commençai à paraître à la cour et à m'y faire des amis. Mais j'ai eu le malheur de m'attacher particulièrement au marquis de Villarreal, grand seigneur portugais, qui, pour avoir été soupçonné de songer à délivrer le Portugal de la domination des Espagnols, est présentement au château d'Alicante. Comme le duc de Lerme a su que j'avais été dans une étroite liaison avec ce seigneur, il m'a fait aussi arrêter et conduire ici. Ce ministre croit que je puisse être complice d'un pareil projet. Il ne saurait faire un outrage plus sensible à un homme qui est noble et castillan. » Don Gaston cessa de parler en cet endroit. Après quoi, je lui dis pour le consoler, « Seigneur chevalier, votre honneur ne peut recevoir aucune atteinte de cette disgrâce, qui tournera sans doute dans la suite à votre profit. Quand le duc de Lerme sera instruit de votre innocence, il ne manquera pas de vous donner un emploi considérable pour rétablir la réputation d'un homme injustement accusé de trahison. »